rendez-vous sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos infos, nous envoyez vos messages audio. Inscription gratuite sur dw.com/WhatsApp.
Non, je crois que ça va être très compliqué pour plusieurs raisons. Déjà au niveau de la RDC, il faudrait attendre ce que diront les juges. Et puis même sur place, au sein de l'Union africaine, il y a eu tellement de précédents dans lesquels l'Union africaine n'a pas penché pour le recomptage que ce serait surprenant qu'elle crée un précédent avec le cas de la RDC. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au Gabon récemment. Ça ne s'est fait dans aucun pays jusque-là. Donc si jamais, étant donné qu'en plus, la RDC n'a demandé le concours de personne pour organiser ces élections, ce serait vraiment difficile de lui imposer quoi que ce soit et surtout pas un recomptage des voix.
Et est-ce que vous pensez justement que Paul Kagame a avalisé de façon tacite le plan de Joseph Kabila?
Ce que Paul Kagame et la plupart des voisins, et quand je parle des voisins, c'est à la fois l'Angola qui a beaucoup soutenu les deux Kabila, le père et le fils, le Rwanda de Paul Kagame, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ces pays ont énormément pesé pour qu'il y ait une transition. Ce serait difficile aujourd'hui qu'ils bout de leur plaisir de constater qu'il y a effectivement une transition puisque Kabila est parti, son dauphin n'a pas gagné, et c'est un opposant qui vient au pouvoir. Donc je pense que de ce point de vue, il n'y a pas à savoir si cela va avoir une influence ou pas d'être proche de Kabila. C'est qu'il y a une situation de fait aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une transition. Elle est peut-être contestée, mais elle est là, à la différence de plusieurs pays où, comme au Cameroun ou au Congo-Brazzaville, il n'y a pas eu de transition.
Donc, en résumé, l'Union africaine ou la SADC sont en train de lâcher techniquement ou bien de façon plus subtile, Martin Fayulu?
Je pense que ces organisations régionales, par principe de subsidiarité, sont en train de jouer la carte de la realpolitik. Et la realpolitik, c'est que c'est un moindre mal d'avoir une transition avec Kabila qui n'est plus au pouvoir et un opposant qui prend le relais. Si cela peut garantir la paix et la stabilité, ces deux organisations vont acheter immédiatement.
Alors, on a comme l'impression que Martin Fayulu également perd la plupart de ses soutiens, même au sein de la coalition Lamuka. Moïse Katumbi, par exemple, est resté inaudible depuis l'annonce des résultats provisoires.
Oui, c'est vrai que c'est un attelage qui semblait assez surprenant. Martin Fayulu a été le premier en 2015 à déposer sa candidature pour être à la présidentielle. Donc, quelque part, ça a constitué un avantage pour lui au moment où on a voulu trouver le plus petit dénominateur commun entre les différents candidats pour avoir un candidat unique de l'opposition. Aujourd'hui, les rapports qu'il entretient avec ses parrains, puisqu'il faut les appeler ainsi, les alliés qu'il a pu avoir entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ces rapports-là n'ont pas l'air d'être très, très forts, puisqu'on a, c'est du bout des lèvres que Jean-Pierre Bemba réclame la victoire de Fayulu, on n'entend pas Moïse Katumbi, et on a l'impression que Martin Fayulu est vraiment seul au monde dans cette après-élection, à l'exception des chancelleries internationales et de son camp, ceux qui sont dans la rue, pour revendiquer sa victoire. Il n'y a pas grand monde dans la coalition qui se mobilise en sa faveur.
On a comme l'impression qu'il s'agissait plutôt d'une alliance contre nature.
C'était une alliance de circonstances. En politique, il y a beaucoup d'alliances qui ressemblent souvent à des alliances de circonstances. On le voit avec le RHDP qui commence à imploser en Côte d'Ivoire. C'était une alliance de circonstances. Elle n'a pas été gagnante. Et la plupart du temps, quand on ne gagne pas, il faut trouver des éléments forts dans la coalition pour continuer le combat. Je ne sais pas s'ils arriveront à en trouver entre les trois grands leaders de la Lamuka, mais espérons que tout se passera bien, surtout sur le plan électoral et socio-politique en RDC à la suite de cette présidentielle, de ces élections générales.
Sous réserve donc de la confirmation des résultats de la présidentielle, donc de l'élection de Félix Tshisekedi, on parle beaucoup ces derniers temps d'une probable cohabitation avec l'ex-majorité présidentielle, la PPRD ou bien le FCC. Est-ce que vous pensez que ce sera un attelage qui va fonctionner?
Je pense que ce sera un immense défi pour le futur président si sa victoire est confirmée, c'est-à-dire si Félix Tshisekedi, si jamais il arrivait à relever ce défi de travailler avec tous les caciques de l'ancien régime, parce que la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui est détenue par le FCC, ce qui montre bien que ce sera une cohabitation. Est-ce qu'à son niveau, il arrivera à avoir les coudées suffisamment franches dès le début de son mandat pour prendre des mesures fortes, notamment dans le domaine de l'impunité, dans le domaine de la restauration de l'autorité de l'État à tous les coins du territoire, et puis la relance économique, puisqu'il faut quand même que sur le plan minier, le code soit appliqué, que c'est l'extraction des minerais profite aux populations et que le budget soit relevé. Avec un budget d'au moins de 5 milliards de dollars, on n'a pas l'impression que c'est la RDC. C'est un budget qui pourrait correspondre à un pays de taille inférieure à la RDC. Donc j'espère que l'assiette de prélèvement pourra être relevée, mais pas pour créer ce que l'on a en France avec les gilets jaunes, c'est-à-dire appauvrir davantage ceux qui sont déjà pauvres, mais que les plus riches contribueront davantage au budget de l'État, à la croissance de l'État, et surtout que la répartition des fruits de la croissance profitera à l'ensemble de la population.
Et pensez-vous vraiment, Luc Maillot, que Félix Tshisekedi a l'étoffe d'un président qui devra présider aux destinées d'un grand pays comme la RDC ?
C'est un citoyen congolais, comme tous les Congolais. Il a eu le droit de se présenter. Il a eu l'adhésion, visiblement, d'un grand nombre de Congolais. C'est un contrat qu'il a signé. On verra à l'épreuve ce que cela représente. S'il a l'étoffe d'un président, nous le saurons assez rapidement. Mais je pense qu'au-delà des 100 jours, ce sont les 6 premiers mois qui marqueront vraiment la position qu'il prendra, tant dans son pays que dans les rapports avec les différents voisins, à commencer par le Congo-Brazzaville, ensuite avec le Rwanda, qui est quand même un point de fixation dans les relations internationales de la RDC, et puis de façon plus large sur la scène internationale. Comment se fera-t-il accepter au sein du club des présidents de l'Union africaine? Comment est-ce qu'il arrivera à se faire accepter aussi par les grands partenaires de la RDC à l'international, la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne? Ce sont tous ces défis-là aujourd'hui qu'il doit sérieusement préparer au cas où il était confirmé à ses fonctions pour pouvoir démontrer que le costume n'est pas trop grand pour lui.
Et est-ce que vous pensez que la France va le soutenir? Parce qu'on se rappelle un peu des dérives verbales, si on peut le dire ainsi, de Jean-Yves Le Drian qui s'est ravisé juste après. Est-ce que Paris sera obligé, elle aussi, de prendre acte si jamais l'élection de Félix Tshisekedi était confirmée par la Cour constitutionnelle?
Il n'y a pas de fâcherie éternelle en relations internationales. Quand Al-Sisi a renversé Morsi, la plupart des pays avaient condamné le coup d'État et ne voulaient pas traiter avec le général. Les choses se sont normalisées par la suite. Donc je pense que même s'il y a eu cette sortie de Jean-Yves Le Drian, je pense que le temps fera son œuvre, si jamais les choses se confirment, pour que les relations entre les deux pays ne restent pas sur un épisode, fût-il aussi grave que celui-là, mais qui n'a été que verbal, entre la France et la République démocratique du Congo.